la libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Accueillons tout de suite Anne. Bonsoir Anne.
Bonsoir Sana et bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à la libre antenne.
Ben, je vous remercie de m'accueillir sur Europe 1, que j'écoute depuis 2005.
Très merci de votre fidélité. Qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, bon, je suis un petit peu nerveuse, je vous prie de m'excuser.
Non, mais je vous en prie.
Je voulais surtout rebondir sur le témoignage de Georges, que je n'ai pas pu entendre en entier parce que je suis arrivée trop tard. Et donc, Georges évoquait la transition.
Absolument. Donc, vous pourrez réécouter en podcast son passage. C'était jeudi dernier et ensuite il est repassé lundi pour nous donner.
Voilà, je l'ai entendu lundi en fait. Je ne l'ai pas entendu jeudi. J'ai dû, à un moment donné, je n'étais pas sur l'entièreté de l'émission. Donc voilà, je n'ai pas.
Et son petit-fils nous a appelé hier.
Oui, j'ai écouté Gabriel.
Gabriel, absolument.
Justement, voilà. Puisque je vous écoute tous les soirs. Et bon, là, c'est vrai que je suis arrivée un petit peu tard ce soir-là et j'étais très contente de voir que l'on pouvait aborder le sujet de la transition.
Ah ben oui.
Et j'aurais bien voulu répondre à Georges, mais c'était trop tard, je suis arrivée en fin de témoignage.
D'accord.
Et voilà, parce que je suis moi-même, pour poser le contexte, donc j'ai 54 ans, je suis maman de 3 enfants. Et donc, la dernière, qui est une fille et qui est devenue un jeune homme.
D'accord.
Donc, c'est un sujet qui m'a touchée directement au travers du témoignage de Georges et de celui de Gabriel, qui a 16 ans. Pour poser un petit peu le contexte...
Votre fils a 16 ans également?
Non, non ça a commencé à 15 ans.
Ah, ça a commencé à 15 ans, d'accord.
Voilà, maintenant, il a 25 ans, bientôt 25 ans.
D'accord.
Mais ça m'a rappelé beaucoup de choses,
oui.
Et ça remue encore beaucoup de choses, puisque c'est un sujet sur lequel il y a très peu de discussions et les gens ne comprennent pas. Donc je n'en parle pas en fait en ce qui me concerne. Donc pour situer le contexte, je suis divorcée depuis 15 ans.
Oui.
Et au moment de mon divorce, mes 3 enfants avaient, dont la dernière, 10, 14 et 20 ans. C'est un divorce qui a été très conflictuel, qui a duré plus de 3 ans et dont les enfants, les 2 derniers, ont souffert énormément en raison du chantage affectif.
Ah.
Donc ça, c'est pour vous situer, si vous voulez, le mal-être qui s'en est suivi.
D'accord.
J'ai obtenu la garde des enfants et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, bon, tout allait bien. Donc ma dernière, qui est devenue un jeune homme, était une élève extrêmement brillante, qui avait 18 de moyenne. Le divorce ayant fait beaucoup de dégâts, la séparation, sur le moment, j'ai pas tout de suite vu son mal-être, parce que les études suivaient, les notes étaient là, et puis c'est à partir de la troisième, où là, les notes ont commencé à dégringoler, de 18 de moyenne, elle est passée à 11. Alors que c'était une élève
brillante.
Tout à fait... beaucoup d'humour, la personnalité. Je précise que c'était une petite jeune fille d'1m55, une petite miniature très féminine, des cheveux très longs, très jolie, qui avait beaucoup de succès auprès des garçons, et elle le rendait bien d'ailleurs. Donc, si vous voulez, pour moi, il y avait un cheminement tout à fait normal. On était à la période, une préadolescence qui a duré assez longtemps.
Oui.
Et donc, tout ce mal-être qui a commencé à s'accumuler, je l'ai mis aussi sur le compte au début de la séparation, plus de la préadolescence prolongée qui était là. Donc, très bonne complicité avec son frère. Et puis, ça a commencé par les notes. Donc, j'ai commencé à rencontrer les professeurs pour savoir le pourquoi du comment. S'en sont suivis beaucoup d'échanges. Donc, j'ai même changé d'établissement.
Ah oui.
Les notes ont un petit peu remonté, mais il y avait un désintérêt de tout, en fait. Donc, je me suis dit, elle commence une dépression. Donc, j'ai commencé à discuter avec elle parce que je suis très ouverte. À voir éventuellement le médecin traitant pour savoir si effectivement c'était une dépression, qu'est-ce que ça masquait, ce mal-être qui commençait, je le sentais, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Donc son frère regardait aussi sa sœur pour savoir si parce qu'ils venaient me rapporter un petit peu, parce qu'ils étaient très complices s'il y avait des choses. J'ai pensé qu'il y avait peut-être des choses en cours. Mais en fait, elle sortait énormément. C'est ça qui était paradoxal, c'est qu'elle était, elle faisait des cours de guitare, elle était chanteuse dans un groupe de guitare. Les copains, les copines venaient régulièrement à la maison. Donc, j'ai rejeté un peu le côté, j'ai mis de côté le problème relationnel. Donc, après, ça a continué. Ça s'est manifesté en plus, elle a toujours un don pour le dessin.
Oui.
Donc, elle faisait beaucoup de croquis. À l'époque, elle était énormément dans les mangas.
D'accord.
Donc, au niveau tenue vestimentaire, collant, jupe, enfin voilà, tout à fait, j'allais dire...
rien d'apparent, en fait.
Voilà. Ouais. Et puis, avec les mangas, comme elle était énormément, parce que c'est une, un jeune homme qui lit beaucoup, qui s'intéresse à tout, donc elle était dans la culture manga, elle a commencé à mettre des petites robes, vous savez, plissées, avec les collants opaques, les Doc Martens, et puis... Je me suis dit, sur un passage, je me suis dit, on va être souple, je vais l'accompagner dans... Voilà, dans ce changement vestimentaire, tout en ayant un œil où ça dérivait pas non plus dans quelque chose où, voilà. Donc après, elle a commencé à mettre un peu des colliers avec des pics, ça j'ai moins aimé. Mais je me suis dit, bon, étant donné qu'on était dans le côté voilà, bon. Et puis là où j'ai commencé vraiment à m'inquiéter, c'est quand elle a commencé à se scarifier.
Aïe.
Donc sur les poignets, elle cachait ça avec des gros bracelets en cuir. Et là, donc, je commençais à discuter avec elle. Enfin, c'était déjà le cas. Mais là, je lui dis, écoute, je pense qu'on a peut-être besoin de voir un psychologue. Je vois que tu n'arrives pas à m'en parler. Est-ce que tu veux en parler à une tierce personne avec qui tu pourras exposer ce qui se passe peut-être est-ce que c'est par rapport à ton père, par rapport à moi, et tu n'as peut-être pas forcément envie de me l'exprimer. Donc, nous avons cherché des psychologues. Aucun ne lui a convenu.
Il a accepté. En fait, est-ce qu'on dit elle sur cette période?
Alors, j'ai du mal à dire il.
Oui.
Parce que j'arrive pas à faire mon deuil, mais je vous expliquerai un peu après pourquoi. Donc, c'est vrai que je dis mon enfant, en fait.
Quel est son prénom? Ou alors on lui trouve un prénom?
Mathieu,
voilà. Je vais dire Mathieu.
Mais j'ai beaucoup de mal à faire le deuil de son prénom.
Mais je comprends.
Féminin.
Oui.
Parce que ça a été assez violent dans la manière dont les choses se sont présentées. Non pas que je ne l'ai pas accepté, mais voilà, elle a déjà accepté à cette époque-là de voir des psychologues. Et puis un beau jour, j'ai un psychologue qui m'a convoqué, qui m'a dit, écoutez, de toute façon, votre fille, quand elle vient en consultation, elle me regarde, elle regarde le plafond, elle regarde les murs, et elle me dit froidement, je n'ai rien à vous dire. Donc il m'a dit, on ne va pas continuer la consultation, ça ne sert à rien. Donc, on a continué jusqu'au jour où on a trouvé un psychologue, enfin une psychologue, avec qui ça a matché, où elle s'entendait bien. Et à partir de ce moment-là, les scarifications, parce qu'elle avait commencé les scarifications, mais elle s'arrachait aussi les cils. Donc, je ne sais plus, ça a un nom.
Absolument. J'ai eu une patiente.
Comme elle était châtain clair sur le moment, alors il faut savoir qu'elle se maquillait, hein, qu'elle mettait des bijoux et autres. Et puis, c'est comme ça, petit à petit. Il y a eu d'abord cette époque manga, donc où elle était dans le côté japonais, chinois, dans la manière vestimentaire. Et je n'ai pas fait attention au dessin, parce qu'elle avait des croquis qu'elle faisait et qui retraçaient tous les mangas. Et par la suite, en fait, dans les mangas, elle se représentait, elle, en personnage androgyne. Mais ça, à l'époque, je l'ai pas, j'ai pas tilté là-dessus, parce que j'étais sur autre chose. J'étais sur ses résultats scolaires qui baissaient, sur son mal-être. Je voyais bien qu'elle souffrait, qu'elle voulait pas m'en parler, qu'elle jouait un personnage même avec ses amis, qu'elle faisait semblant d'être joyeuse. Mais en fait, avec son frère, on arrivait en discutant, son frère et moi, donc... on voyait bien qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, qui petit à petit...
Anna, est-ce que vous sondiez ses amis? Non.
C'était un peu compliqué parce que j'avais pas envie de les mêler à notre vie intime. On était tous les trois, puisque j'ai mes enfants toutes seules. Donc c'était un peu compliqué. Et puis en fait, j'ai vraiment pensé au contexte du divorce qui était vraiment terrible, quoi. Donc j'ai essayé plutôt de discuter avec ma fille, d'être ouverte. Elle parlait assez bien, mais en fait, elle cachait pas mal les choses aussi.
Oui.
Donc la psychologue nous a énormément aidés, enfin l'a énormément aidée. Donc les scarifications se sont arrêtées. Le fait qu'elle s'arrache les cils également.
Ça y est, c'est la tricot.
C'est ça.
Tricotillomanie, quelque chose comme ça, je crois.
Voilà, c'est un terme compliqué. Oui, il y a le mot tricoté dedans.
Voilà. Mais je crois que c'est la tricotillomanie. Tricotillomanie.
Je ne connaissais pas du tout.
Ah oui, c'est le fait d'arracher, de s'arracher les cheveux.
Elle n'avait plus de cils. Elle n'avait plus du tout de cils. C'était assez impressionnant. Et jusqu'au jour où cette psychologue m'a convoquée, parce que je demandais à savoir qu'est-ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit, très violemment, elle m'a dit, écoutez, votre fille a un dédoublement de la personnalité. Au travers de ses mangas, elle s'habille comme ci, comme ça. Je pense qu'elle est schizophrène. Je l'ai pris vraiment en pleine figure. Je me suis dit, la schizophrénie, c'est pas ça. Et en même temps, je me suis dit, c'est vrai qu'elle est intelligente. Mais pour moi, voilà. Donc, la psychologue, ça s'est arrêté là. on a cherché d'autres moyens.
Oui.
Et puis, y a eu un moment où, effectivement, elle est donc retournée vivre chez son père. Là, ça a été assez violent. Au moment de ses 18 ans, elle m'a dit, je retourne vivre chez mon père.
Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme explication, comme argument ?
Elle a toujours été très proche de son père.
Ah, d'accord.
Sur les trois, c'était vraiment la fille à papa. Mais je ne dis pas ça péjorativement.
Non, bien sûr.
Et leur père, avant le divorce, a été tout à fait un bon père. Il a élevé ses enfants. Enfin, de ce côté-là, avant le divorce, il n'y avait aucun souci.
Oui.
Mais c'était plutôt le dirigé contre moi, puisque c'était moi qui suis partie.
D'accord.
Donc elle m'a dit, j'ai 18 ans, je m'en vais. Et en l'espace d'un mois, elle a plié bagage et elle est partie rejoindre son père. Donc, ça a été un petit peu violent. Et puis, on s'est retrouvés au moment des vacances. Et là, un beau jour, au moment des vacances, elle m'a dit, maman. Alors, il faut savoir, entre-temps, j'ai sauté des étapes. Donc, après l'arrêt du psychologue, elle allait un peu mieux. Et puis là, par contre, la transformation physique s'est faite.
Ah,
c'est-à-dire que là, elle a carrément arrêté les jupes, la jupe plissée, tout ce qui était un peu dans la provoque. Parce que moi, au début, je me suis dit, elle est dans la provocation, c'est un petit peu pour me...
rebeller,
donc, j'allais dans son sens, voilà.
Ouais.
Et puis, elle est passée au pantalon. Mais bon, au pantalon, j'allais dire tout à fait logique. Bon, elle était passée des New Rock, elle est restée avec ses Doc Martens. Mais les pantalons, et puis c'est surtout la coupe. Au début, elle avait les cheveux très longs jusqu'à la taille. Quand elle est passée dans son mode manga, elle est passée aux cheveux au carré.
Au carré,
et
ouais.
Après, elle est passée carrément à la coupe limite brosse.
D'accord.
Bon, les bijoux, c'était terminé. Le maquillage, terminé. Au début, elle faisait des piercings. Elle a commencé à se faire des tatouages, mais très discrets. Mm-hmm. Les piercings, elle les a arrêtés parce qu'après, j'ai compris que c'était trop féminin. Et puis, elle a commencé aussi à mettre des bandages au niveau des seins.
Ah. Alors ça, c'est vraiment ce qui... regroupe, hein, le signe, c'est vraiment la poitrine, hein, cette féminité.
Ah, oui. Là, elle a eu un rejet, mais alors de sa féminité.
Ouais.
Et donc, avec son frère, on a pensé en fait qu'elle était homosexuelle. On s'est dit, c'est pas grave. Moi, mes enfants, je les aime comme ils sont, peu importe. Donc, on était resté un peu sur cette impression-là. Et puis, un été, quand on s'est tous retrouvés, enfin, avec son frère, elle m'a dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Bon, je pensais qu'elle allait m'avouer son homosexualité. Pour moi, elle avait déjà eu des petits copains. Je ne l'ai jamais vu avoir des relations homosexuelles. Je me suis dit, bon, peut-être que dans son orientation sexuelle, elle est bisexuelle. Bon, après, ça la regarde, c'est son choix. Et moi, je n'ai pas à critiquer son choix. Elle avait 18 ans, 19 ans, là. Et puis, elle m'a dit non. Elle m'a dit, je ne suis pas homosexuelle. Et là, je n'ai pas compris. Et elle m'a dit, en fait, voilà, je me sens mal dans mon corps de femme. Elle me dit, je le hais. Et elle m'a dit, je veux devenir un homme. Alors, sur le moment, j'ai eu un temps, je crois que mon esprit de maman s'est bloqué.
Oui.
J'ai pas compris, parce que je ne connaissais pas du tout ce que c'était transgenre. Pour moi, transgenre, comme disait votre collaborateur, j'étais restée sur les documentaires de Coccinelle.
Oui, d'accord.
Du premier transsexuel, Coccinelle, voilà. Et pour moi, l'homosexualité, bon, ça y est, c'était quelque chose maintenant des monsieur et monsieur et des madame et madame, voilà, ça ne dérange plus personne. C'est vraiment, il n'y a plus de racisme ou d'homophobie, oui, entre guillemets. Donc ma première réaction,
moins,
c'est vrai que...
En tout cas, moins.
Oui. Mais on parle du mariage homosexuel.
Oui, bien
on
sûr.
Parle des, alors que dans les années 80...
Il y a une évolution des mœurs,
dans les années 80, quand on était au moment du sida, on n'aurait jamais pensé... Puis bon, moi, je suis issue d'une famille traditionnaliste, de surcroît.
Oui.
Donc, mais bon, voilà. Donc, on a commencé. Donc, à partir de ce moment-là, on discutait. Je vous avouerai que ma première réaction a été une réaction de rejet, pas par rapport à mon enfant, hein, mais par rapport, comment vous dire ça, au système en fait. Le système de transition transgenre, plutôt ce milieu. Enfin, j'aime pas le terme milieu parce que c'est je ne sais pas si où est-ce que je veux dire. Quand elle m'a dit transition, transgenre,
oui,
c'est quelque chose que j'ai rejeté en disant ça ne peut pas m'arriver à moi,
ah oui,
en tant que maman. Et après, j'ai culpabilisé en me disant qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle arrive, qu'elle veuille devenir un homme, en fait, et qu'elle rejette,
oui,
ben, sa naissance de fille, en fait.
Alors, c'est probablement une question tout à fait normale et légitime, puisque si on regroupe en tout cas le témoignage de Georges et de Luna hier également, qui nous a appelés pour parler de ses enfants,
oui,
eh bien, tous les trois, vous avez ce point commun de vous dire, mais qu'est-ce qu'on a raté ? Et
c'est
presque dommage de se dire, mais en quoi est-ce que c'est raté si l'enfant devient adulte en étant totalement épanoui, en quoi c'est raté ?
C'est ce que je me suis dit après.
Eh bien, oui.
Mais dans un premier temps, j'ai eu cette phase-là qui est passée assez vite parce qu'elle ne m'a pas laissé le choix. Mais j'ai culpabilisé et puis quand j'ai vu qu'elle était soulagée de me dire que voilà, et elle avait déjà mes pensées, tout son projet déjà, elle avait déjà fait des recherches, elle s'était renseignée, par contre ce qu'elle m'a fait faire, c'est qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Pendant 2 ans, j'ai dû garder le secret.
Anne, est-ce que pendant cette période-là où vous avez observé votre Mathieu dans son évolution, en tout cas physique, avant son opération, hein, avant la prise de testostérone qui marque quand même. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous en avez parlé avec son père ? Est-ce que vous avez réussi à...
Non, elle m'a interdit.
Ah,
non, non, elle m'a interdit. En fait, j'étais la première à qui elle a avoué sa transition.
D'accord.
Et son frère. Mais par contre, elle m'a dit, tant que je n'ai pas fait mon cheminement physique... le début de son parcours, elle m'a dit, je ne veux pas que tu en parles. Donc en fait, je me suis retrouvée à garder ça pour moi.
Mm-hmm.
Par contre, ensemble, on a fait le chemin, donc comme je vous disais, passer ses premières émotions,
oui,
je me suis dit, bon, c'est comme ça,
je vais l'accompagner,
je vais l'accompagner,
oui.
Et je la voyais vraiment, c'était pas quelque chose de fantaisie. Elle avait déjà préparé tous ses...
C'était mûrement, c'était pas embryonnaire, c'était vraiment mûrement réfléchi dans son esprit.
Oui, oui. Ouais. Mais enfin, il faut savoir quand même que sur le moment, la troisième pensée qui m'est venue, c'est, je me suis dit, oh là 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 là, elle va se faire agresser, elle est à l'université. Et j'avais très peur qu'elle se fasse agresser dans le bus. Parce qu'elle, par contre, elle n'avait aucunement... par contre, vis-à-vis de ses amis, tout ça, elle l'avouait, elle le disait.
Oui.
Elle était transformée.
Mmh.
Elle était heureuse.
Oui.
Enfin, il était heureux. Par contre, moi, du
épanoui,
côté familial, je...
Le fameux terme.
Oui,
ouais,
rien, voilà, à voir.
Libéré,
rien à voir.
Quoi.
Tout à fait.
Ouais.
Et donc, du coup, on a commencé à faire les recherches ensemble. Donc, ça a commencé par les sites Internet. Enfin, moi, déjà, quand elle me l'a avoué, j'ai recherché tous les sites Internet sur tout ce qui était transgenre.
Mmh.
J'ai regardé X documentaires, émissions, reportages,
ouais,
sur la transition.
Ouais.
Alors là aussi, il y a du bon et du mauvais. Il faut être honnête.
Mais c'est... Alors, j'ai regardé hier, hein, parce que je savais que j'allais avoir Gabriel en ligne le soir. J'ai regardé sur Netflix un très, très bon documentaire qui s'appelle Disclosure, que je vous invite à regarder.
D'accord.
Qui donne des informations extrêmement intéressantes sur justement pas l'univers transgenre, mais en tout cas le fait qu'il n'y a que les médias qui en parlent, et finalement nous n'avons qu'une connaissance à travers des films, des séries,
mm-hmm,
mais certainement pas, comme vous le dites, là, ce que vous êtes vous en train de nous dire, ce témoignage fort comme celui de Gabriel hier, ou celui de Georges, qui peut déranger, mais
Ah, mais ça dérange totalement. Hein.
Voilà, mais ça fait partie de notre société aujourd'hui.
Alors après...
Il faut en parler.
Il y a eu des reportages où... Bon, après, ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que c'est quelque chose... Enfin, je veux dire, jusqu'à 14 ans, ma fille n'a montré aucun mal-être. C'était une fille, une vraie fille. Hein. On faisait du shopping entre mère et fille. Donc, il a fallu que je fasse ce deuil-là aussi. Mais voilà, il n'y avait pas, si vous voulez, de tendance ni homosexuelle, ni autre.
Oui.
Elle jouait à la poupée. Enfin, c'est un peu cliché ce que je vous dis là. Hein, parce qu'elle a fait tous les sports de combat, par contre. Bon. Elle n'a pas fait de danse classique. Hein.
Mais ça, c'est aussi la société qui veut ça. Hein. On nous a imposé, entre guillemets, un langage, ce langage qui cloisonne finalement. Après, il y a tous les comportements sociaux où le rose est attribué aux filles, le bleu est attribué aux garçons. Et c'est un peu la génération woke aujourd'hui qui est en train de tout faire exploser. Alors ça nous dérange, hein, parce que ce sont également des repères. Mais
on est un petit peu resté dans l'androgynité, comme avec Kristen the Queen.
Bien sûr.
Et donc voilà, ma question était un petit peu... Donc ce soir, c'est vrai que ça me fait du bien de vous parler, parce que... Je n'en parle jamais. Non pas parce que j'ai honte, attention. Hein. Moi, j'aime mon enfant comme il est. Je n'ai aucune honte de ce qu'il est, mais simplement parce qu'on n'est pas compris en tant que parent. Et que quand moi, j'ai entendu des réflexions autour de moi, et la grand-mère en premier. Alors, c'est pour ça que je trouve que Georges est un grand-père super.
Ah ouais.
Parce que ma mère, donc du côté, est quelqu'un de très traditionnaliste. Et pour vous dire, quand j'ai divorcé, la réflexion a été on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et elle ne m'a plus parlé pendant 8 ans.
Ah, voilà. D'accord. Suite à Mathieu.
Non, suite à mon divorce.
À votre
c'est pour vous situer le côté traditionnaliste.
Oui, d'accord, je comprends.
Voilà, donc vous imaginez bien que quand ma fille est arrivée, c'est pour ça qu'elle m'a dit je ne veux pas que tu en parles à ma grand-mère parce qu'elle va être cassante sur toutes mes démarches, elle va me critiquer. Donc voilà, et son père, en fait, elle avait une peur bleue que son père la mette à la porte puisqu'elle faisait ses études et c'est son père qui l'a logée, voilà. Donc,
c'était la question que j'allais vous poser, entre guillemets, comment a-t-elle fait pour berner, entre guillemets, son père, puisque vous avez...
Non, mais on pensait tous, en fait, qu'elle était lesbienne.
Ah oui, tout simplement, d'accord.
Et donc son père, de ce côté-là... Bon,
oui, il ne se posait pas plus de questions en se disant, bon, ben voilà...
Non, il attendait, en fait, qu'elle lui en parle.
Je comprends.
Et comme elle s'était coupée les cheveux très courts, elle s'habillait d'une manière masculine, elle n'avait pas de relation amoureuse lesbienne. D'ailleurs, c'est ce qui est assez étrange dans son orientation sexuelle, et c'est ce qui m'a perturbée aussi, c'est qu'elle m'a dit, non, moi, j'aime les hommes.
D'accord.
Donc, je me suis dit, en étant transgenre, je me suis dit, si elle devient un homme, je m'étais dit, bon, après tout, si elle est lesbienne, elle sera un couple avec une femme.
Bien sûr.
Donc, de mon point de vue de mère, honnêtement, sur le moment, ça me dérangeait de me dire, bon, je me suis dit, bah, là, elle aura l'aspect d'un couple hétérosexuel. Et en fait, non. Elle m'a dit, non, moi, j'aime
Mathieu est homosexuel.
Non, elle est hétérosexuelle.
Alors Mathieu, il est...
Puisqu'avant, c'était une jeune femme.
Mais aujourd'hui, il est en couple avec un homme ou une femme?
Ah non, pas du tout. Elle n'est pas du tout en couple. Non, la sexualité, je pense que... Mais non.
Je pensais qu'il était...
Son orientation sexuelle, ce serait vers des garçons.
D'accord.
Elle ne change pas d'orientation sexuelle, en fait.
Donc, Mathieu est homosexuel?
Ah oui, si vous... Oui.
Oui.
Si vous... Oui, moi, je restais sur la naissance même, en me disant, j'ai mis au monde une fille.
Ah oui, je comprends. Donc, mais peu importe, voilà. c'est pas le sujet.
Donc voilà, non, mais c'est vrai que ça m'a quand même tourmenté, son orientation sexuelle, en me disant, ben, je ne serai pas grand-mère.
Ah oui, ça aussi.
Et ça aussi. Je peux vous dire qu'en tant que maman, la fille étant très attachée à la maman, un garçon, c'est pas pareil. Un garçon, c'est la belle-fille qui accouche. Donc la belle-fille, elle va se tourner vers la belle-famille. Tandis que quand ce sont vos filles, ben voilà. Donc je me suis dit, bon, ben voilà. Donc j'ai fait ce deuil-là, adopter. J'ai dû faire ce deuil-là.
Il n'a que 24 ans, il peut adopter sans souci.
Oui, alors pour l'instant, je ne sais pas.
Oui.
Donc du coup, on a fait ce cheminement-là. On a, alors, étant à l'université, elle a la chance d'avoir été très bien accompagnée parce qu'il y avait une association transgenre au sein de l'université. dont son meilleur ami était le président.
D'accord.
Et donc, en fait, il lui a donné de très bonnes adresses. Alors, ça a duré pratiquement 2 ans où elle a rencontré un psychiatre. Qui est donc, alors, ce n'est pas n'importe quel psychiatre. Hein, ce sont des psychiatres qui sont vraiment... qui sont dans la transition.
Oui.
Ils sont spécialisés dans la transition.
Oui. Alors, donc, elle est justement, Anne, c'est vrai que vous avez raison. Ce sont des spécialistes, hein, parce que tout le monde n'est pas...
Je précise voilà. Pour les auditeurs.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après une petite pause. Vous êtes d'accord ?
Bien sûr.
Bon,
bien
à
sûr.
Tout de suite sur Europe 1.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nous retrouvons Anne. Anne, oui. Vous êtes toujours là. Vraiment, Anne, je vous dis un grand merci. Merci infiniment d'aborder ce sujet qui, effectivement...
C'est compliqué pour moi, même si j'ai la parole un peu fluide, oui. Bon, je suis un petit peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens et je vous
prie pas du tout. Non, pas du tout.
Mais
vraiment.
En fait, je n'en parle jamais, comme je vous dis, c'est pas que j'ai honte, c'est qu'il n'y a pas de personne dans l'écoute. Alors, j'ai parlé avec les associations, bien sûr, hein. J'ai parlé avec tout ce qui était le corps médical,
ouais.
Donc le psychiatre qui a suivi donc mon enfant pendant un an et demi, donc et qui lui a très bien expliqué quels allaient être les changements physiques,
ouais.
De son corps. Donc dans un premier temps, ça a été la partie psychologique pour s'assurer, comme disait Georges, parce que moi ce qui m'a fait très peur aussi, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière, parce que très vite, elle m'a parlé tout de suite de l'ablation des seins.
Oui.
Alors que c'était une belle petite jeune fille avec, voilà, très bien proportionnée. Bon, le problème, c'est qu'elle complexait parce qu'1m55, 43 kilos, bon, c'est sûr que c'est pas du 45 en pointure. Et que pour devenir un jeune homme, bon, malgré tout, ça faisait, voilà, dans la norme, on va dire, masculine au niveau taille, c'est 1m70. Donc ça l'a complexée.
Oui.
Mais donc après ce parcours au niveau de psychiatrie, donc ça a été donc savoir étudier vraiment ses motivations.
Oui.
Ça, le psychiatre s'est vraiment assuré de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle entendait. Donc il y a eu des échanges avec le psychiatre. Et ensuite, dans un deuxième temps, est venu donc l'aspect du changement physique.
Oui.
Donc là, elle lui a expliqué en quoi ça consistait, l'ablation, parce que là, maintenant, elle en était aussi au changement de sexe. Donc là, c'est encore un autre... Mais ça s'est fait très rapidement, hein, parce que là, je vous dis ça, de 18 à 20 ans, en 2 ans.
En 2 ans ? D'accord.
Et en 2 ans, ce que j'explique aussi à un collaborateur, ce qui m'a un petit peu gênée, moi, en tant que mère et autrement, c'est qu'au niveau de la carte d'identité, en 6 mois de temps, elle a pu changer d'identité. C'est-à-dire qu'elle est devenue monsieur au lieu de mademoiselle.
Donc, au lieu du 2, elle est passée
non,
à 1.
Non, alors justement, le problème qu'il y a en France carte, actuellement, ouais. C'est que sur la carte vitale, elle conserve son 2.
D'accord.
Mais sur la carte d'identité, elle est devenue monsieur.
D'accord.
Okay. Et le changement de prénom a été accepté.
D'accord.
Et pour la carte vitale, c'est un petit peu plus long.
Mmh.
Et donc là, c'est vrai que bah, comme elle cherchait des emplois et autres... Moi, j'avais peur pour elle parce que quand vous présentez la carte vitale à un employeur pour tout ce qui est formalité administrative, vous avez le 2 qui apparaît.
Oui.
Mais elle, par contre, elle n'avait absolument pas peur du regard de l'autre.
Alors,
des autres.
Forcément, vous, comment est-ce que vous avez vécu cet accompagnement psychologiquement, parce que vous nous dites, hein, clairement, vous l'avez verbalisé, j'ai encore du mal. Moi, l'esprit de maman, je l'ai noté. Je connaissais l'esprit de Noël, et puis là, grâce à vous, je découvre l'esprit de maman. J'aime beaucoup la formulation. Comment avez-vous vécu, vous, avec votre esprit de maman, ces 2 ans où, là, on est vraiment dans le cœur du réacteur ?
Je dirais le parcours du combattant.
C'est
en ce qui me concerne.
Ouais.
Parce que j'ai dû me faire violence pour beaucoup de choses et ce qui m'a porté, c'est qu'elle soit heureuse.
Oui, ça c'est ce qui
donc
vous a
après,
porté chaque fois.
Je lui cachais en fait. Il y a des choses que je pouvais dire, mais elle était tellement dans ce parcours de cheminement, de bien-être, d'arriver voilà, à la finalité d'être un garçon, qu'en fait... Je ne pouvais pas lui dire, bien sûr qu'à un moment donné, je lui ai dit, ben voilà, mais je crois qu'elle n'aurait même pas compris qu'il fallait que je fasse le deuil. Elle m'a dit un jour, elle m'a dit, mais maman, tu sais, je reste la même dans mon esprit. Elle dit, c'est pas parce que physiquement je change que je vais changer intellectuellement, ce qui était vrai d'ailleurs.
Oui.
Elle avait parfaitement raison.
Ou l'amour qu'elle
et
peut
voilà,
porter.
Et voilà, moi, mon amour, il reste intact.
Ouais.
Mais c'était physiquement, ça a été, si vous voulez, en l'espace de 2 ans, j'ai fait cet accompagnement-là, j'ai rencontré, et j'ai beaucoup discuté par mail avec des associations transgenres,
ouais.
Mais je n'ai pas rencontré les gens physiquement, si vous voulez, dans les associations. Ça a été des appels téléphoniques, ça a été des échanges de mails. Ensuite, on est passé à l'endocrinologue. Et là, ça a été, là, c'est là où ça a été très, très violent pour moi, parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais ce repère rassurant de maman de voir la petite fille, bon, qui était une jeune femme, hein, mais voilà, j'avais encore l'image féminine devant moi. Et quand elle a commencé à prendre, d'abord j'avais peur parce que les hormones, c'est pas anodin.
C'est vrai.
Donc elle a commencé à avoir des piqûres dans le ventre. Ça a été quelque chose de très rapide. Elle avait quand même des doses d'hormones de testostérone assez importantes. Donc elle a commencé à avoir de la pilosité. Et puis ce qui a été le plus choquant pour moi, c'est quand elle a commencé à avoir sa pomme d'Adam. Et puis la voix.
Ah oui.
Et la voix. Ouais, alors là, ouais. Là quand je l'avais au téléphone, c'était plus la petite voix féminine, c'était la grosse voix grave.
Oui.
Et puis bah, tout l'acné qui va avec, parce qu'il faut savoir que c'est pas rien, c'est comme une bonne crise d'adolescence, et avec voilà, avec des boutons, donc il y a un moment un peu ingrat dans le côté physique de la transition,
ouais.
Et donc ce côté-là je l'ai vécu, et ça a été compliqué pour moi parce que bah, je reconnaissais plus la voix de ma fille, il y avait plus le prénom de ma fille, et physiquement je la voyais changer, donc bon. Et après, si vous voulez, en plus, elle ne vivait pas avec moi, elle vivait avec son père.
Est-ce que Mathieu a souffert physiquement de tout ce protocole
Je ne pense pas, parce que quand j'en discutais avec lui, en fait, il me disait, je crois qu'il était tellement heureux que tout ça, ça se fasse, qu'il aurait accepté mais n'importe quoi, enfin, je dis n'importe quoi, hein, sous-entendu, entre guillemets, mais dans le sens où, bon, il se savait bien accompagné déjà sur le plan médical, ça passait bien entre le médecin, le psychiatre et l'endocrinologue, parce que là aussi, elle avait été très bien conseillée sur un endocrinologue. Et par contre, après le chirurgien, c'était pareil, c'était un chirurgien spécialisé. Et là, c'est vrai que du jour au lendemain, elle m'a dit, ben voilà, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien, ça me ferait plaisir que tu sois présente. Et puis, voilà, qu'on procède à l'ablation des seins.
Anne, sans nous dire, c'est comme vous voulez, hein, moi je vous pose des questions. Vous habitez dans quelle région de France?
Alors moi, je suis, ma fille est en Bretagne, et moi je suis sur Le Havre.
Et tout cela s'est fait...
En Seine-Maritime.
Tout cela s'est fait en Seine-Maritime, plutôt en région parisienne.
Non, tout en Bretagne et en Bretagne, une partie. D'accord. Autrement, le psychiatre, elle l'a vu à Paris.
D'accord.
Le psychiatre, elle l'a vu sur Paris lors de ses rendez-vous et l'endocrinologue, c'était en Bretagne. Et l'opération, elle l'a fait en Bretagne aussi. Elle l'a fait.
D'accord. Et quelle est l'association ou en tout cas ce qui vous a le plus aidé dans ce parcours, vous, en tant que mère?
J'étais tombée sur l'association de Caen, une association transgenre à Caen, qui est très bien, et qui demandait... Mais alors, le problème que j'avais, pour être honnête, c'est que je suis souvent tombée sur des personnes qui sont passées d'homme à femme. J'avais très peu de cas où la transition était de femme à homme.
Oui, c'est vrai que c'est plus courant dans ce... Oui, c'est vrai.
Et voilà, donc j'ai souvent eu des témoignages d'hommes qui devenaient des femmes et où en termes de transition physique, c'est un peu plus, un peu plus facile, oui et non. Mais disons que là, en termes de tout ce qui était hormones et autres, pour moi, ça a été compliqué.
Mmh.
Et puis après, très très vite, elle a enchaîné sur l'ablation des seins.
Oui.
Donc là, par contre, elle a été dure, je trouve, elle a été assez violente. Elle ne s'est pas rendue compte que pour moi, c'était... elle m'a dit, écoute, maman, tu viens, parce que son père n'était toujours pas au courant. C'est au moment où elle a commencé à faire l'ablation des seins, qu'elle, vraiment, l'opération était programmée, qu'elle l'a avouée à son père.
Et donc, il ne s'était pas rendu compte de la pilosité, de la pomme d'Adam.
Non, parce
de
qu'elle
la
avait
voix.
Une pilosité... Après, après, elle avait un logement étudiant.
Ah, voilà.
Ou alors, d'accord. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, je ne saurais vous dire.
Le fameux déni.
Je ne saurais vous dire, mais après, bon, quand elle est arrivée à l'opération, au stade de l'opération, elle lui a dit, bon, il n'a pas rejeté, il pensait qu'elle était bien, ça s'est bien passé. Par contre, l'opération, c'est à moi qu'elle a demandé. Elle m'a dit, maman, je veux que tu sois présente à la clinique. Ouais. Et qu'après, quand elle est revenue à son appartement, comme elle était bandée, donc il fallait savoir qu'avant, elle achetait des bandages pour écraser la poitrine. Mmh. Donc ça, c'était un signe aussi. Ces bandes dessinées aussi, c'était un personnage androgyne. Donc il y a eu après plein de signes qui m'ont... J'ai compris après coup.
Mais oui.
Et là, après, où elle a été un peu dure, j'ai trouvé, c'est après son ablation. Donc elle avait des soins. Donc il y avait une infirmière qui venait. Et quand elle est sortie de la chirurgie, elle m'a dit, ça y est, tu sais, maman, le chirurgien, il m'a dit que j'avais une très belle poitrine et que c'était dommage de les enlever, d'enlever mes seins. Mmh. Ouf, bon. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, il n'y a plus de recul en arrière, c'était le dernier rempart de sa féminité, c'est ce qu'elle souhaitait. Et quand elle est arrivée...
le dernier rempart, peut-être pour vous ?
Oui, ah bah lui, là, c'était... Ouais. Mais la manière dont elle a dit, je sentais qu'elle, elle était soulagée, mais elle s'est pas rendue compte qu'en fait, pour moi, c'était... Alors, à l'intérieur, j'étais en lambeaux.
Qu'est-ce qui vous a empêché, Anne, d'aller voir vous-même un thérapeute, un psy, pour pouvoir vous accompagner à faire le deuil de votre fille ?
Bah, je crois que je ne l'ai toujours pas fait pour l'instant.
Oui, c'est ce qui...
Parce que je suis toujours entre le « il » et le « elle », parce que je ne peux pas parler aux autres personnes. Et que quand on me demande actuellement « vous avez des enfants ?», je dis toujours « deux filles, un garçon ». Et quand j'entends des personnes me dire « ah, tu as deux filles, tu n'es toujours pas grand-mère », ben non, ça ne risque pas.
Et vraiment, quand je parle de deuil, je parle de la symbolique. Parce que Mathieu est là, mais c'est par rapport à tout ce que vous nous décrivez sur... Le parcours également, comme vous, du combattant, de l'esprit de maman qui, pour sidération, voilà, je veux être un homme. Tous les rêves et tout ce que vous aviez projeté sur et pour votre fille.
Ça encore, si vous voulez, c'est pas... Elle aurait été homosexuelle, je veux dire, non... C'est plus ce qui m'a fait très peur, un peu je rejoins Georges, c'est par rapport à son avenir. Je me suis dit, il ne s'est pas facilité la vie parce que la carte vitale, elle est en deux. Pour la recherche d'emploi, voilà, c'est plus ça qui m'a tracassée. Et on me dit aussi la peur qu'elle se fasse agresser.
Alors Georges, c'était aussi, et si elle regrettait ma petite fille ?
Ah non, moi, il n'y avait pas de souci.
Ça, c'était elle l'interrogation. Était très, très voilà. Ça, c'était l'interrogation non. Et quand on entend Gabriel, on sent bien qu'il est vraiment, il est vraiment prêt.
Oui, c'était pareil. Moi, j'ai eu ce discours-là, une voix très affirmée.
Ah, ouais,
et puis, elle avait déjà fait toutes ses recherches en amont. Hein. Mm. Elle savait exactement. Donc, j'ai bien vu que ce n'était pas un projet fantaisiste. Oui. J'ai bien vu que ce n'était pas un côté provocation androgyne, etc. Il y avait vraiment un mal-être, une souffrance qui était là. Et quand elle m'a demandé au contraire de l'accompagner, j'ai foncé, je suis rentrée dans cette porte ouverte qu'elle m'ouvrait. Hein. Je suis rentrée littéralement et au contraire. Après, c'est à moi de travailler sur moi. Mais je trouve dommage actuellement que la société traite ce sujet un peu c'est d'une manière légère. Moi, j'ai vu des reportages où c'était une petite fille de 4 ans. Et la maman disait, elle veut devenir un garçon. Et d'office, elle est allée voir un psychiatre et elle le disait que, elle était transgenre. À 6 ans, 6, 7 ans, quand la petite s'exprime, on ne peut pas dire qu'un enfant est transgenre, je ne pense pas.
Oui.
Il peut y avoir d'autres orientations, mais pas forcément celle-ci. Il y a peut-être une orientation d'homosexualité, enfin, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, il n'y a jamais eu rien de tel. Le mal-être a commencé vraiment vers 13-14 ans.
Oui.
Et au moment de l'adolescence, plus le divorce. Donc c'est pour ça que j'ai situé le contexte en disant que sur le moment, je n'ai absolument pas, alors vraiment pas pensé à ça. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, donc c'était il y a 2 ans, donc l'ablation, elle l'a faite. Et après, elle m'a annoncé que, alors là, j'étais moins, elle voulait changer de sexe. Dieu merci, je dis ça parce que pour l'instant, je trouvais qu'elle était jeune. Et que c'est une opération qui n'est pas anodine, hein, parce qu'il faut voir aussi le côté chirurgie. Moi, c'est aussi ça qui me fait peur quand je dis Dieu merci, parce que c'est des opérations qui ne sont pas courantes, la reconstruction du sexe, notamment d'une femme vers un homme. C'est quand même très, très complexe.
C'est plus complexe, je crois, que l'inverse.
Hein. Oh là là, oui.
Ouais.
Donc, on en est resté là, et puis là, ça a un coût. Il faut savoir que ce n'est pas remboursé. Tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Ouais.
Donc, entre guillemets, ça a été mis en attente parce qu'elle n'avait pas les moyens.
D'accord.
Et moi, je trouvais ça même plus sage parce que ça lui permettait le temps de la réflexion, même si je sais qu'elle est sûre d'elle. Hein. Mmh. Plutôt le temps d'attendre un petit peu, peut-être pour trouver un médecin, enfin, de se renseigner davantage sur une chirurgie, voilà, quelque chose sur des personnes fiables.
Donc le terme exact, Mathieu n'est pas entier encore.
Voilà.
C'est
et
le
ça,
terme.
Je sais qu'il n'aimait pas parce qu'il avait toujours ses règles. Et c'est quelque chose qu'il ne supportait plus.
Oui. Il prend peut-être une pilule
Oui, mais bon.
Donc malgré la testostérone, il continuait quand même à avoir...
Non, mais au début, c'était ça. Non, oui. Bah, là, il mettait des slips qui donnaient une forme proéminente. Voilà.
Oui.
Mais je sais que ce qui le dérange le plus, c'est sa taille, parce qu'il fait 1m55 et que c'était une petite miniature, voilà, donc une petite poupée. Et je ne dis pas ça péjorativement. Et donc... dans sa transformation, ça l'a beaucoup gêné.
Ah oui, ça je peux comprendre.
Sur la taille, on ne peut pas jouer.
Oui,
c'est vrai que quand on voit l'étroitesse de ses poignets, moi je le sais, mais c'est vrai que pour un garçon, ça fait des poignets très très fins.
Oui.
Elle a des petites mains très fines, voilà. Alors je continue à dire il ou elle parce que donc Mathieu a arrêté de me parler il y a 2 ans.
Ah.
Au moment de la Covid, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire mon deuil.
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors que vous l'avez accompagné alors que...
Eh bien, ça a été...
je ne m'attendais pas du tout à ce que vous nous disiez cela, vraiment.
Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, mon deuil, je n'ai pas pu le faire. Alors, j'ai toujours son numéro de téléphone, je lui envoie des textos, je lui dis toujours que je l'aime, je lui laisse des petits messages vocaux, ma porte est toujours grande ouverte, et il a également fermé la porte à son frère. Donc, il n'a rien compris du tout. Et elle s'est coupée, en fait, de tout le monde, sauf de son père. Et voilà.
Ah, donc, en revanche, à avoir un contact avec son père, néanmoins.
Ah oui, tout à fait. Alors, oui, il est resté dans la ville où est son père.
Anna, on va faire juste une toute petite
oui,
pause.
Oui, je suis désolée, je vous
en prie. Non, mais je vous en prie. C'est extrêmement intéressant. On fait une petite pause et on se retrouve juste après.
Je vous remercie.
Merci.
La Libre Antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Donc Anne, depuis la Covid, votre fils, en tout cas Mathieu, a rompu le lien avec vous et avec son frère.
Voilà,
en revanche, il continue à échanger avec son père. Comment est-ce que vous l'avez su ?
Ah mais parce qu'elle vit là-bas. En fait... Donc, parce que les derniers temps, les dernières fois que je l'ai vu, on avait encore des échanges écrits. Donc, je savais qu'elle allait régulièrement chez son père et vivre dans la même ville.
D'accord.
Et puis après, les échanges se sont espacés. Donc, je me suis dit, je vais me déplacer. Mais en fait, après, elle est partie carrément vivre chez son père. Puisqu'elle recherchait un nouveau logement.
D'accord.
Et comme son père et moi, nous, on ne s'entend plus depuis des années, et quand j'ai même envoyé un texto à son père pour lui demander comment ça allait, il ne m'a jamais répondu. Alors, moi, j'ai supposé aussi, quand je vous ai parlé de la grand-mère, parce que, bien sûr, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, « Ok, moi, j'assume ma transition, mais par contre, maman, tu l'annonces au reste de la famille. » Bon... Donc, il a fallu que je le dise à la grand-mère.
Oui.
Voilà, la réaction de la grand-mère, c'est pour ça que je vous dis que Georges a beau... Gabrielle a beaucoup de chance d'avoir Georges. La réaction de la grand-mère a été de dire « Il y a une anomalie dans les gènes, il y a quelque chose qui ne va pas.
» Voilà. Bon, après,
donc, ça m'a d'autant plus blessée.
Oui,
je me suis fâchée. Et je pense qu'elle l'a dit effectivement, mais bon. Donc du coup, elle a coupé en fait les ponts carrément. Et voilà. Alors est-ce qu'il y a la séparation de son père, pourtant ça date de 15 ans, et comme on ne se parle pas, ils en ont beaucoup souffert, hein, et elle particulièrement.
Oui.
Donc je ne saurais pas. Et c'est pour ça que je reste sur ces interrogations. Et comme je disais à votre collaborateur, mon deuil, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, à quel stade elle est de sa transition.
D'accord.
Donc, si vous voulez, je n'ai pas pu continuer à suivre son évolution physique de jeune homme. Sur le plan études, je ne sais pas ce qu'elle devient. Voilà, en fait, je ne
sais
plus.
C'était les questions que j'allais vous demander. C'est qu'est-ce que devient Mathieu? Est-ce qu'il a réussi son...
Alors, Mathieu, déjà, dans un premier temps, est embryon. Il a fait un bac C. Après, il a fait un bac D. Et ensuite, il a fait une première année de fac de droit, où il a eu 14 de moyenne, et puis il en a eu marre, il a dit non, bon, ça ne m'intéresse pas. Il a fait ensuite une année, la première année c'était sciences éco.
Oui.
C'était, pareil, première année 14 de moyenne en licence, il a arrêté. Il a fait une année de droit, après il a fait une année de langues étrangères, à chaque fois 14 de moyenne, et là il est en psychologie.
Ah, d'accord.
Voilà.
Comme Gabriel.
C'est... Oui, c'est pour ça que j'ai souri.
Ouais.
Voilà, il y a 2 ans, il était en études de psychologie. Et il voulait devenir psychologue.
Qu'est-ce que vous ressentez, Anne, vis-à-vis de Mathieu?
Beaucoup d'amour.
Oui.
J'ai du chagrin dans le sens où je ne comprends pas pourquoi il ne me parle pas. Alors que pendant 2 ans, je l'ai accompagné. J'ai toujours été présente pendant tout le temps du divorce qui a été très, très violent. Que j'ai eu beaucoup de... Voilà, mais... Et puis, je lui en veux un peu par rapport à son frère, parce que mais je pense que, comme mon fils est proche de moi aussi, je crois qu'en fait, il a coupé les ponts vis-à-vis de son frère pour pas que son frère, effectivement, me donne des nouvelles. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, peut-être que j'interprète mal. Hein.
Non, mais c'est votre interprétation. Il y a plusieurs... plusieurs
après, voilà, je n'ai pas de... Voilà, je sais quand je fais très attention quand je lui envoie des textos, puisqu'apparemment je ne suis pas blacklistée. Je l'appelle, j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, mais je tombe sur le répondeur. Donc je laisse un message vocal, j'essaie de ne pas l'inonder de messages vocaux, ni de textos, mais dans lesquels je lui assure toujours que ma porte est grande ouverte, que je l'aime, et que, voilà, au contraire, que j'espère qu'elle va bien, que tout se passe bien dans sa vie d'étudiant, et je parle toujours au masculin.
Oui.
Mais c'est vrai que ce qui a été le plus dur pour moi aussi, c'est de passer du féminin au masculin.
Oui, je comprends.
Du masculin au féminin, pardon, oui, là-dessus.
Oui, je comprends, dans l'esprit de maman...
Dans les adjectifs. Pas pendant 15 ans, vous appelez votre fille par des surnoms affectifs. Du jour au lendemain, les adjectifs, petite, on dit plus petite, on dit petit. Oui. On dit plus ma chérie, on dit mon chéri. Après, je lui dis mon grand. Et c'est vrai que au début, c'était pas naturel parce que mon esprit allait naturellement dans un langage féminin. Et il fallait que je réfléchisse pour parler au masculin.
Oui. Bon, après, c'est quelque chose qui, avec l'habitude...
Voilà, mais après, tout à fait.
Bien sûr, ça
s'entend. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que mon deuil, je n'ai pas vraiment pu le faire.
Ben, je comprends, et vraiment, même en étant détachée, hein, je vous écoute, je me dis, mince, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Mathieu? Qu'est-ce qu'il veut encore transmettre comme message en vous mettant comme ça à distance? Est-ce que c'est pour vivre pleinement sa transition, mais dans ces cas-là, pour quelles raisons est-ce qu'il ne vous partage pas justement son épanouissement et son bonheur? Et avec son frère, qu'est-ce qui se passe? Et puis toujours cette barrière avec...
Mon fils a essayé sur les réseaux sociaux et en fait, il a arrêté les réseaux sociaux.
Mathieu a arrêté les réseaux sociaux ou votre fils?
Non, Mathieu visait son frère.
Ah,
parce
d'accord.
que mon fils a essayé de le joindre sur Facebook, pour ne pas le citer, et puisqu'il était inscrit aussi, Mathieu était inscrit sur Facebook, et en fait, je crois qu'il l'a blacklisté.
Oui.
Il l'a éjecté du groupe d'amis, et du groupe relationnel, et il a vraiment fait le vide autour de lui. Mais bon.
Et il a un Instagram ou... un Facebook ou...
je ne saurais vous dire parce qu'en fait c'est des pseudos, donc il faudrait déjà que je connaisse son pseudo.
Ah oui,
parce qu'il fait tout sous pseudo, il ne met jamais son nom de famille ni son prénom, donc voilà. Mais après, moi j'ai son numéro de téléphone, hein. Pour l'instant je fais très attention de ne pas être envahissante ou autre, parce que depuis 2 ans j'arrive à envoyer des petits messages. Chaque mois, j'envoie des petits messages, je laisse un message oral. Je lui parle de tout et de rien, mais je ne rentre pas, je lui parle de lui, mais je ne rentre pas dans des détails qui pourraient le froisser.
Il vous manque?
Donc, je ne sais pas trop vers où je vais.
Est-ce qu'il vous manque, Mathieu?
Oui, bien sûr.
Oui.
Ah oui, bien sûr. Ben, mes enfants, c'est mes enfants, surtout que je les ai élevés toutes seules. Hein. Donc, on était quand même très fusionnels tous les trois. Hein. puisque la grande était déjà partie, elle était en dehors de la maison, elle avait déjà quitté la maison.
Et oui, ils sont trois. Trois, oui. Puisque j'avais noté au moment du divorce, 10, 14, 20. Donc l'aînée oui.
Est une fille qui a actuellement 37 ans.
Et elle a des nouvelles de son frère, enfin de Mathieu ?
Elle ne sait pas qu'il est transgenre.
Ah d'accord.
Parce que l'aîné n'a pas de relation avec les deux derniers de la fratrie. C'est un peu compliqué.
Ah d'accord.
Parce que le divorce, ça fait beaucoup de mal. Et l'aîné, par contre, là, on sait pourquoi elle a claqué la porte en disant qu'elle ne voulait plus avoir affaire parce que c'est trop compliqué. Et voilà.
Vous savez où elle est, vous savez...
Ah oui, tout à fait, elle est à l'étranger.
D'accord.
Voilà, j'ai son adresse. Non, elle est à l'étranger, donc déjà c'est un peu plus lointain. Mais en termes de transition, à un moment donné, j'ai dit aussi à mon fils, donc à Mathieu, je dis, écoute, ce serait bien que tu le dises aussi à ta sœur. Je ne voulais plus assumer le rôle de dire la nouvelle à l'ensemble de la famille pour avoir ce genre de réflexion complètement stupide de la part de ma famille.
Je comprends, je comprends.
Et je voulais aussi, puisqu'elle assumait haut et fort, et c'est vrai, auprès de ses amis, elle a toujours gardé ses amis d'enfance. Hein. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts, comme l'a été mon fils. Donc ses amis, elle les a tous gardés.
D'accord.
Ils n'ont pas été choqués par le fait, par sa transition.
Et vos amis à vous ? Parce que la famille, bon, voilà.
Alors les amis vraiment proches qui la connaissaient, au début, j'ai du mal à en parler. Je l'ai dit. Il y a une réaction, c'était mitigé. C'était pas méchant, mais de l'incompréhension. Une incompréhension totale sur un sujet dont on parle pas, qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'il venait plus de l'ignorance, ce qui était mon cas d'ailleurs, avant que je ne le sache.
Ouais, je comprends.
C'était un sujet sur lequel, enfin, j'aurais jamais pensé que ça pouvait déjà m'arriver, que ça pouvait arriver dans notre famille. Et que, voilà, pour moi, c'était quelque chose qui était à milieu à la ronde. Hein. Donc, quand je l'évoquais avec mes amis, qui la connaissaient, puis eux, ils avaient l'image de la petite jeune fille, voilà, qui était pimpante, souriante, voilà, très féminine. Donc,
ça doit être un très joli garçon aujourd'hui.
Eh bien, je ne saurais vous le dire, parce que moi, je suis restée dans la partie transition. Donc, comme je vous expliquais, avec l'endocrinologue, donc tout ce qui était le côté hormonal, où c'était vraiment une période qui n'était pas très marrante pour lui physiquement, puisque ça amenait beaucoup, la peau était grasse, ça amenait beaucoup de boutons, la pilosité venant petit à petit, il y avait aussi, il fallait changer les traitements parce qu'ils n'étaient pas forcément adaptés. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est important et que je voulais aussi apporter mon témoignage par rapport à cela, par rapport au parcours médical. Et là, je dis vraiment aux parents qui se retrouveraient confrontés à cette situation de souffrance de leur enfant, mais vraiment qu'il faut que derrière, il y ait vraiment un bon parcours médical. C'est extrêmement important parce qu'il y a de tout et parfois, heureusement qu'elle a été aidée par cette association et qu'elle a eu de bonnes adresses.
Oui.
C'était
la question que j'allais vous poser parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il me vient une idée, Anna. Vous savez, l'émission, donc, vous pouvez vous réécouter en podcast.
Oui.
Et je me disais que ça pouvait être intéressant de copier le lien et de lui envoyer.
Peut-être. Alors, je me dis, j'espère qu'elle sera pas fâchée. J'ai tellement peur que
votre témoignage est tellement fort et deux, plein d'amour. Voilà, donc qu'il sache qu'il vous manque et que vous aimeriez au moins ne serait-ce qu'avoir quelques nouvelles.
Mais je le lui écris, hein. Lui écris que je l'aime et qu'il me manque. Et que j'espère surtout qu'il va bien, que c'est ce qu'il m'apporte.
Eh bien, nous aussi.
Et puis je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter aussi longuement sur l'antenne.
C'est normal.
Je m'excuse auprès des auditeurs qui devaient passer.
Bah, ils passeront demain. Ils passeront demain, tout simplement.
En tout cas, merci beaucoup à vous, Chana,
et
puis à vos collaborateurs qui sont toujours dans une écoute bienveillante.
Qui sont top aussi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et vraiment bon courage, Anne.
Je vous remercie. Passez une bonne fin de soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci donc à Sophia et donc à Anne. On se retrouve demain soir à 22h pour de nouvelles confidences. Tout de suite, le programme de la nuit. Et je vous souhaite donc une douce nuit.